à votre santé. 152e émission de l'Association citoyenne pour des centres de santé dans le Pays de Valois. Bonjour les auditrices et auditeurs de RVM. Nous sommes au complet aujourd'hui, notre équipe revient, n'est-ce pas ?
Les congés sont finis, la vaillante équipe est de retour. Et Daniel Cléau, bonjour.
Christian Max de retour provisoirement en attendant de repartir ailleurs.
Voilà, moi aussi.
Et moi-même, Hélène Mazur, nous revoilà pour nos petites émissions d'Info Santé. Alors aujourd'hui, ma foi, on va reprendre un petit peu l'actualité. Avez-vous entendu parler de retour d'une autre vague, peut-être ?
La huitième, on nous parle de huitième,
paraît,
avec plaisir.
Alors on va demander à Christian ce qu'il a repéré dans les infos.
Alors toujours à partir de Covid Tracker, qui reprend d'ailleurs les infos de Santé publique France, au 18-9, le taux d'incidence nationale était de 296 et il était en hausse. Le taux de reproduction, il était de 1,26 le 21 septembre et il était également en hausse.
D'accord.
Par contre, la tension hospitalière, elle était de 13,6%. Elle est considérée comme basse et stable.
Ouf.
Oui, donc après les mauvaises nouvelles, les moins pires.
Oui, les moins pires.
Alors, il y avait toujours à la même date, le 21-9, il y avait 699 soins critiques. Et c'est en baisse de 4%.
D'accord.
C'était en baisse de 4%, je veux dire, par rapport à la semaine d'avant. 30 décès hospitaliers par jour, également en baisse de 12%. Par rapport à la semaine d'avant, le 21.
D'accord.
Ça, c'est le national.
Oui.
Alors, chez nous, dans l'Oise, le taux est de 264, donc légèrement inférieur au taux national.
Mm-hmm.
La tension hospitalière est de 6%,
ce
qui est quand même assez faible. On a 155 hospitalisés, 2 en réanimation, hospitalisés graves. Hein.
Mm-hmm.
2 en réanimation, pas de décès.
Bon.
Voilà. Dans la Somme, on est à 364. Dans l'Aisne, 366. En Seine-et-Marne, on était à 239. Le département métropolitain, le mieux achalandé, si j'ose dire, c'est la Seine-Saint-Denis avec 143. Le plus élevé en France, c'était dans les Ardennes, ça, 543. Le plus faible, donc, c'est la Seine-Saint-Denis. Et le plus faible national, c'est Mayotte, 13.
D'accord.
Voilà.
Ben comme quoi, d'avoir eu le Covid massivement, malheureusement, il y a eu beaucoup de morts.
Oui.
Ça a quand même contribué à une certaine immunité.
Oui, alors après, entretien aussi avec le docteur Dahan sur le sujet.
Oui.
Il m'a dit quand même que la vaccination y était aussi pour beaucoup.
Ben, les deux combinés.
Oui, les deux combinés. Et parce qu'on arrive à 79% de privo-vaccination complète en
D'accord.
France.
D'accord.
Et 60% avec déjà au moins un rappel. Donc ceci explique un peu cela. Alors justement, en parlant de vaccins, on a entendu tous, je pense, à la radio, à la télé, que les nouveaux vaccins allaient arriver, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte les nouveaux variants.
Voilà, c'est ça qui nous intéresse.
Oui, et donc la Haute Autorité de Santé recommande de les utiliser, y compris en parallèle avec le vaccin contre la grippe.
Oui.
Alors, on va voir comment ça sera organisé, mais la vaccination contre la grippe commence normalement le 15 octobre.
Oui. On a reçu les documents déjà. Là. Ça commence.
Toi, tu as de la chance. Moi, je ne les ai pas eus.
Ça ne va pas tarder.
Ouais.
Donc, alors moi, oui, c'est ça. Bah, écoute, tu as résumé. Hein, ces vaccins qui prennent en compte tous les variants, etc. OK.
Donc, on arrive à ce qu'on disait d'ailleurs dès le début, c'est qu'il va falloir faire comme la vaccination contre la grippe, c'est-à-dire... une nouvelle mouture de vaccination tous les ans, en prenant en compte les variants qui sont arrivés en cours d'année.
D'accord. Bon, ben écoute, c'est quand même rassurant, hein, malgré tout ce qu'on pouvait entendre.
Oui, on est dans une huitième vague, mais pas dans les hôpitaux pour l'instant.
Oui, 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 soyons prudents comme toujours. Oui. Bien, ben écoute, donc ça c'était le point sur la Covid. Tu as quelque chose à nous dire sur la variole du singe ?
Ben, pas grand-chose, puisqu'on n'en entend plus parler.
Oui.
Moi, j'ai compris que c'était une varicelle assez sérieuse, quoi. et qu'il fallait pas rigoler avec ça. Donc il y a des centres de vaccination qui ont ouvert. Hein, je crois que dans l'Oise,
Il y en a deux, oui. Il y a Beauvais et Compiègne, centre hospitalier.
On vaccine les personnes à risque, ce qui est déjà pas mal. Et donc pour l'instant, il n'y a pas lieu de s'affoler, mais il n'y a pas lieu non plus de faire n'importe quoi.
Oui, il faut être vigilant, quoi.
Il faut être vigilant, d'accord. Voilà.
Alors, moi, j'ai lu cet été, je crois que c'était en juillet. C'est paru en juillet et j'ai eu la traduction après. Un article qui parle des origines du Covid. Donc, c'est un scientifique qui en parle. Et ce qu'il dit, c'est d'abord que, évidemment, la question des origines, c'était d'abord une question scientifique. Mais en même temps, un objet socialement explosif. C'est-à-dire qu'on a pu manipuler les esprits. Il y a eu des rumeurs complotistes, il y a eu toutes sortes de choses, et qui peuvent provoquer des comportements risques, comme refus du vaccin ou de refus de soins, parce que méfiance au degré 100%. Et donc, ce que disait ce scientifique, M. Sylvestre Huette, c'est que la manière dont la presse rend compte de l'évolution des connaissances ne peut donc se juger uniquement à l'aune de la transparence. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire que, voilà, on sait ceci, on sait cela, car l'évolution de la recherche de la vérité scientifique, eh bien, elle peut prendre des chemins erronés. On ne trouve pas du premier coup, les bonnes réponses. Et donc, il dit qu'évidemment, ce fut le cas pour le Covid, et donc des scientifiques honnêtes et compétents ont exigé que l'enquête aille au bout. OK ? Et donc, ils ont examiné d'autres options que la transmission animal-homme qui était évoquée au début de l'épidémie. Donc, en particulier, un scientifique très reconnu, Michael Worobe, si je prononce bien, américain, Université d'Arizona. Il a donc écrit dans la revue Science, si vous dites en français, c'est Science, qui est une revue très...
De référence.
Voilà, merci. Qu'il fallait étudier jusqu'au bout la piste alternative d'une fuite de laboratoire. Et le 26 juillet 2022, donc vous voyez quand je vous disais cet été, la même revue Science publiait deux articles de ce monsieur Michael Worobe, et qui établissent de manière définitive, que l'origine de l'épidémie est bien le marché de Wuhan en novembre 2019. Et que le virus présentait alors deux lignées distinctes. Et donc, lorsque vous regardez l'ensemble des preuves, il est clair que cela commence à se marcher, conclut ce scientifique. Voilà. Et donc, pourquoi je vous dis ça ? Vous pouvez le dire plus rapidement, évidemment, mais c'est que celui qui nous rapporte l'article avec la traduction, M. Huette, dit qu'il y a une leçon médiatique à tirer de cela. Et que dès lors que le sujet présente des conséquences sociales fortes, les journalistes doivent en tenir compte lorsqu'ils relatent les évolutions de la recherche. Et donc ne pas privilégier une piste par rapport à une autre, ce qui peut troubler les esprits, et tout le monde s'en souvient, on a eu toutes sortes de choses. Donc c'était quand même important parce qu'il y a eu beaucoup d'anxiété autour de cette origine du Covid.
Oui, c'était tellement rapide en plus, il fallait...
Voilà, on avait des informations contradictoires et puis d'autres très amplifiées. Bref.
Tout le monde était
voilà,
perdu,
donc je pensais que là, maintenant que tout se calme, c'était plus facile et certainement. Et j'ai lu aussi un autre article, toujours par rapport au Covid. Là, c'est une étude de notre système de recherche, la direction de la recherche, des études, l'évaluation et des statistiques, voilà, qui a analysé dans son édition 2020 l'impact de la crise sanitaire et des mesures mises en place sur les hôpitaux et cliniques. Et évidemment, je vais juste vous résumer, c'est que ce qu'ils constatent, c'est que le Covid a durablement affecté l'hôpital. Ils ont été évidemment particulièrement impactés, puisque vous vous souvenez, hein, la tension hospitalière, on en parle toujours, etc. Les périodes de confinement, les décisions de déprogrammation de soins ont eu des conséquences sur l'ensemble de l'activité hospitalière. Et on cite, vous le savez, nous en avions parlé, hein, chers auditrices, auditeurs, que dans les déprogrammations, eh bien, il y avait des choses inquiétantes. Et donc, on le voit en résultat, une baisse sans précédent de l'activité hospitalière. On n'arrêtait pas de nous parler des services de réanimation, vous vous souvenez, qui étaient surchargés, etc. Mais par ailleurs, moins 12% de nombre de séjours, moins 8% le nombre de journées. Et c'est un recul inédit, évidemment dû à la déprogrammation des soins jugés non urgents. Mais dans ces non urgents, eh ben, il y avait, par exemple, les séances de radiothérapie. Et avec une réduction de 4%. Et ce qui est dit que ça concorde avec d'autres études menées en France, etc. Et ça concorde avec le fait qu'il y a eu un retard de prise en charge de patients atteints de cancer, notamment concernant le diagnostic des nouveaux cancers. Voilà. Voilà, c'est reconnu statistiquement, c'est pas seulement les témoignages. Et donc, j'espère que c'est quelque chose qui sera, pris en compte si jamais il y avait une nouvelle pandémie, etc. En tous les cas, ça a surtout laissé nos soignants épuisés. Et de ce côté-là, on a eu d'autres informations dans l'actualité de cet été.
Et oui, qui l'aurait cru ? À la polyclinique Saint-Côme, eh bien, on a été obligé de fermer 3 semaines par manque de personnel. Et c'est le service maternité qui a été obligé de fermer. Et ben, les patientes ont été transférées à l'hôpital public, voire dans d'autres hôpitaux du secteur.
Tiens donc.
Y compris jusqu'à Amiens, Lille, Paris.
Oh là là.
Et trois semaines.
Et pendant 3 semaines, parce qu'il n'y avait plus assez de personnel pour assurer les soins.
Les sages-femmes en particulier. Voilà, oui. Souvenez-vous, chers amis auditrices, auditeurs, on vous avait parlé du mouvement des sages-femmes, qui elles aussi sont très, très maltraitées, hein, on peut dire. Voilà, ben ça tombe encore sur les femmes, parce qu'on a eu d'autres nouvelles. C'est sur la maternité de Creil.
Oui, alors ça, c'est toi qui es... C'est Daniel qui est au courant, là.
Oh, à peine. Moi, je sais que j'avais manifesté pour maintenir la maternité de Creil. Bon, ben, ça n'a pas... J'ai pas suffi à pousser le système.
Oh, alors, Daniel...
Cette maternité a bien déménagé à Senlis, alors qu'elle était en niveau 1, je crois, et celle de Creil en niveau 3. C'est-à-dire pour la sécurité des mamans et des nouveaux-nés, quoi. Pour
le niveau 3 étant le plus élevé.
Voilà. Pour la réanimation et les premiers soins,
Senlis, c'était en niveau 2. Oui, voilà. Tout à fait. Et donc, on avait dû vous en parler, hein, chers auditrices, auditeurs, qu'il y avait des échos de, eh bien, une surcharge, par exemple, des urgences, du fait de nombreux accouchements en cours, toutes sortes de... Alors, évidemment, les transports en urgence aussi, ambulances, etc., à Senlis, bref. Et puis des ratés, quoi, hein, des problèmes. Eh bien, figurez-vous que le 7 juillet dernier, encore cet été... Le tribunal administratif a déclaré illégale la fermeture de la maternité sur le site de Creil. Alors, illégale. Pourquoi ? Parce que, en effet, le schéma régional de santé prévoit une maternité sur chaque site du groupement Creil-Senlis.
Hospitalier.
Une sur Creil, une sur Senlis. Et donc, en enlevant celle de Creil, qui était la plus importante, on n'a pas respecté ce schéma qui devait quand même reposer sur des éléments tangibles. Ce tribunal donne 6 mois à l'agence régionale de santé, c'est elle qui a décrété ça, pour réagir. Alors on va se dire, chouette, ils vont être obligés de ramener la maternité de santé. À Creil, de Senlis à Creil, si j'ose dire, avec le personnel qui était passé, etc. Mais non, ce serait trop beau. C'est que, en fait, c'est un argument technique. L'ARS peut simplement modifier son schéma régional de santé qui ne prévoirait plus une maternité sur chaque site et du coup, sa décision ne serait plus illégale.
Voilà.
Bon, vous voyez.
Donc, on n'a rien compris, nous.
Eh bien, si. Si, on a compris, parce que je peux vous dire que ça se mobilise.
Oui.
Il y a eu une grande mobilisation sur le secteur de la santé, le 22 septembre, et évidemment, pour le comité de défense de l'hôpital de Creil, et de son lice d'ailleurs, il y a eu un rassemblement pour exiger le retour d'une maternité à Creil, qui repose bien entendu sur le bon sens et, je dirais, une détermination à assurer l'égalité des soins sur notre territoire, quand même. Donc, voilà. Alors, la balle est dans le camp, évidemment, de l'ARS, mais aussi de nous, les citoyennes et les citoyens. On a vu qu'à Saint-Côme, ils ont fermé leur maternité. On a vraiment besoin de deux maternités dans le Sud-Ouest. Alors, on vous a dit qu'il y avait eu une journée, donc, de mobilisation dans le secteur de la santé. Sur quelles questions, essentiellement ?
Ça ne serait pas les conditions de travail et les salaires, entre autres ?
Bah oui.
Des hospitaliers.
Donc, le nombre de postes et les salaires, des conditions décentes de travail, puisque maintenant, donc, les syndicats parlent de maltraitance des personnels. On savait déjà que les...
Maltraitance des patients, maintenant, on en arrive à la maltraitance du personnel. Oui. Pendant que Hélène reprend son souffle... J'avais eu une petite info sur le recrutement des infirmières, parce qu'actuellement, il manque 60 000 postes d'infirmières, infirmiers. Le concours de recrutement des pharmaciens, c'est pareil. Il n'y a eu pas assez de candidats. Il y aurait 1000 candidats à pourvoir, rien qu'en candidats. Donc, il y a également un problème en pharmacie. Alors, les postes d'infirmières deviennent de plus en plus par défaut, arrivent dans les écoles d'infirmières par défaut et non par vocation. Et ça, ça devient un peu critique avec le nouveau règlement des facultés. Voilà, je ne sais pas...
Donc, en fait,
oui, les
faut...
conditions de travail et de salaire sont tellement bonnes que les candidats ne se précipitent plus, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et ça, c'est grave.
Eh oui.
Les syndicats ont quand même des solutions. Ils disent que les 180 000, c'est ça que tu as dit
60 000 postes d'infirmières en manque.
Mais dans ceux qui sont partis ces dernières années, c'est 180 000.
Oui.
Que parmi eux, il y en a qui pourraient revenir si on crée de meilleures conditions. Voilà.
Mais on n'en parle
pas. Il y a un potentiel. Donc, il faudrait qu'on les écoute. Et savez-vous que les syndicats qui avaient signé le Ségur... qui pensaient que c'était une solution, qu'ils ont appelé, eux aussi, à une journée d'action, parce qu'ils voudraient rouvrir des négociations, jugeant qu'il faut revoir la question des effectifs et des salaires.
Donc ils se sont fait rouler dans la farine.
On va pas dire ça comme ça. On va pas dire
Moi,
ça.
Moi, je le dis.
On va dire que...
Ils n'ont pas été vigilants.
Tout le monde, objectivement, voit que notre système de santé va mal.
Très mal.
Et qu'il est grand temps de réinvestir dans notre système de santé. Eh bien, vous savez que vous pouvez nous réécouter, chères auditrices, auditeurs, le samedi 10h30, le mardi 13h, jeudi 16h, et bien entendu en podcast. Je vous dis au revoir.
Au revoir.
Au revoir.